Il y a un style Schumacher. Hors de la voiture, c'est une démarche droite presque rigide, un visage fermé. En piste, c'est pareil. Pionnier du freinage pied gauche, il ralentit très violemment sa monoplace au moment même où il soulage l'accélérateur. Puis il engage le train avant d'un coup de volant décidé, contrôle son train arrière en maintenant légèrement son pied droit sur la pédale avant de rouvrir en grand. Mais il n'y a pas que sa monoplace écarlate qui est malmenée. Dans les duels, Schumacher zigzague et se laisse parfois aller au-delà de la limite, semant la colère chez ses adversaires. Mais ce tempérament lui coûtera cher, notamment au moment d'amener Ferrari vers les sommets.
Die letzte Hoffnung des Michael Schumacher sein.
Oh, look at Michael Schumacher, he's blocked his brakes. Michael Schumacher is coming through to take his first win of the 2003 Formula One season.
3 minuti e 3 secondi, Schumacher e la Ferrari sono campioni del mondo.
Michael Schumacher absolutely flying.
Épisode 6, Quick and Dirty.
Dès la fin de l'année 1995, Michael Schumacher effectue ses premiers essais pour Ferrari et Fiorano. Quelles sont les premières impressions qui se dégagent de ce nouvel attelage ?
Tout de suite, on se rend compte que Ferrari a tourné une page et qu'on rentre dans un nouveau chapitre, dans une ère nouvelle. Avec l'impulsion de Jean Todt, évidemment, mais aussi Ross Brawn, Schumacher, voilà. C'est quand même les tenants du titre. Ils ont fait Benetton. Et donc, ils arrivent chez Ferrari, donc ils n'arrivent pas les mains vides. Alors certes, Ferrari est au creux de la vague. Certes, Ferrari passe au moteur 10 cylindres qui n'est pas dans la
culture maison,
dans la culture, dans l'historique de la maison. Donc ça prend un peu de temps. La F310 ou 310B, c'est quand même encore l'héritage de John Barnard. Donc c'est une saison de transition. Mais tout de suite, on voit aussi que Michael est subjugué, j'allais dire, par le mythe Ferrari, par la légende Ferrari. Il parle très bien de la première fois qu'il est venu à Maranello et qu'il a découvert l'outil que représente Fiorano aussi, hein, la piste d'essai qui est unique en son genre. Et tout de suite, il se rend compte d'abord de la légende, de l'histoire, de la tradition de cette écurie qui est évidemment la plus glorieuse, la plus ancienne du championnat du monde de Formule 1 et du fait que c'est là qu'il peut peut-être écrire sa propre légende. Il en a conscience, et Willy Weber aussi, je crois, joue un rôle dans cet aspect. Michael, qui est un type très intelligent, mais n'avait pas vraiment une vraie culture de la course ou de l'histoire de la course, là, il s'est rendu compte, il a pris conscience du poids de l'histoire.
Kijken naar Schumacher op het circuit van Paul Ricard, bezig met de tests. Wat proefstarts worden er gemaakt, maar voornamelijk wordt er gekeken hoe de auto zich houdt in een race-situatie, de betrouwbaarheid van de Ferrari.
En 1996, il ne peut résister aux Williams-Renault de Damon Hill et Jacques Villeneuve. Pourtant, au volant de la première Ferrari à moteur V10, il réalise quelques performances assez sensationnelles.
Oui, et tout de suite, effectivement, il s'impose comme le leader chez Ferrari. Alors, le deuxième pilote, c'est Eddie Irvine, qui avait été un peu déjà recruté comme porteur d'eau, entre guillemets. Mais voilà, on se rend compte que Michael va tirer la Ferrari vers le haut, et quand les circonstances le permettent, parce que la voiture n'est pas encore assez compétitive, il y a même des problèmes de fiabilité, il y a des grands prix, ils abandonnent dans le tour de formation, mais quand l'occasion est là, il ne la laisse pas passer. Et Barcelone, sous des hallebardes, il fait une démonstration de pilotage, mais complètement bluffante, il met tout le monde à un tour, ou quasiment. À Spa, de nouveau, Spa, hein, c'est le fil rouge de la carrière de Michael Schumacher. À Spa, il est sur son terrain de jeu favori et parvient à imposer la Ferrari aussi, avec souvent la météo qui met son grain de sel. À Monza, c'est le temple des tifosi. On est chez Ferrari, on est là, il est presque voilà emmené par le mouvement de foule, quoi. Et ils parviennent chez Ferrari déjà avec les ingénieurs qu'on connaît, avec à tout mettre en place pour que ce rendez-vous-là soit réussi. Et c'est un circuit, il fallait un peu moins d'appui aérodynamique, un peu plus jouer sur le moteur et sur la vitesse de pointe. Et puis surtout, il fallait concrétiser, et là, Michael le fait. Donc ça, c'est trois victoires symboliques, mais qui en disent long sur le potentiel et de ce qui nous attend dans les années suivantes.
Justement, la saison 1997 est plus souriante, avec 5 victoires. Il se retrouve à la lutte pour le titre, contre Jacques Villeneuve à la Jerez de la Frontera. Il y a une tension énorme à ce moment-là en Formule 1.
Alors là, le mot est faible, hein, surtout que le duel entre Williams et Schumacher, parce que hein, c'est plus Williams et Benetton, c'est Williams et Schumacher, il y a quand même l'historique avec Adélaïde 94 qui a été très mal vécu évidemment chez Williams, ou je dirais même dans la formule anglo-saxonne, la presse anglaise, etc., qui a quand même beaucoup d'influence sur la F1. La finale, c'est un très beau match, une belle affiche. C'est Schumacher contre Villeneuve. Villeneuve, c'est l'héritier de Gilles Villeneuve. Ferrari, mais là, Villeneuve est en face contre Ferrari. Donc, il y a une belle histoire. Au Grand Prix précédent, au Grand Prix du Japon, Villeneuve a été pénalisé, etc. Donc, ils arrivent quasiment avec un point de différence, je crois, à la veille de ce Grand Prix d'Europe, qui est la finale du championnat à Jerez. Alors, c'est un scénario de dingue, parce qu'aux essais, il y a cette séance de qualif très improbable, où on a trois pilotes, soi-disant, dans le même millième, avec le même chrono, au millième près. En l'occurrence, Michael, Jacques et Heinz Harald Frentzen, avec la seconde Williams. Et moi, franchement, j'ai jamais cru à cette égalité parfaite du chronomètre. C'était trop beau pour être vrai, et pour Bernie Ecclestone en coulisses, alors c'est un peu la théorie du complot, hein. Pour Bernie Ecclestone en coulisses, se dire, voilà, on a la finale dont on rêve, il faut ces trois-là, ou en tout cas les deux devant, avec la pôle partagée, en quelque sorte. Je me souviens, j'ai été voir Jean Campiche à l'époque, le chronométreur officiel, hein, Tagueur ou Longines, je ne sais plus, il a fait les deux, et lui m'a juré, dur comme fer, que ça s'était vraiment passé. Mais j'ai quand même toujours un doute, personnellement. En attendant, la course elle-même se déroule aussi avec un scénario à la Hitchcock, avec aussi un espèce d'arrangement entre écuries britanniques contre l'ennemi allemand et italien, Ferrari, Schumacher. C'est-à-dire que les McLaren, qui à l'époque commençaient à vraiment être très performantes, ne se mêlent pas à la lutte pour le titre, un peu comme Mansell ne s'était pas mêlé l'année 94 entre Michael et Damon Hill. Et donc, c'est effectivement le duel attendu. Et c'est formidable pour nous, commentateurs de télé, ou pour les spectateurs. Le duel est haletant. Mi-course, changement de pneus, c'était rentré dans les mœurs. Et là, il se fait que la Ferrari consomme un peu plus. Elle rentre deux tours avant la Williams. Et donc, quand Jacques Villeneuve ressort des stands, il a des pneus neufs qui sont frais. C'est deux tours, hein, c'est pas grand-chose. Mais en tout cas, les deux premiers tours en pneus neufs, on sait qu'on a une adhérence un peu meilleure et qu'on peut aller un peu plus loin sur les zones de freinage. Et Jacques a l'espèce de culot, d'aplomb, et il n'a pas peur de Schumacher. Je peux vous dire que lui, il a toujours affronté Schumacher de face. On se souvient d'un dépassement d'anthologie et story à l'extérieur de la parabolique. Donc Jacques Villeneuve, il est quand même au sommet de son art. Il est jeune, mais il a déjà tout gagné aux États-Unis. Enfin, c'est une star. Et il a la meilleure auto, la Williams-Renault. Okay. Et donc là, Jacques parvient a exploité ces deux tours d'avantage pneumatique, qui n'est pas un gros avantage, mais enfin, sur les zones de freinage, il freinait 10 mètres plus tard, il avait du grip un peu plus que Michael avec la Ferrari. Et là, il le surprend, quoi. Il vient à l'intérieur, un virage serré, et il surprend Michael, qui ne s'attendait pas à cette attaque-là, à cet endroit-là, et Michael a le mauvais réflexe. Malheureusement, il balance le coup de roue, et il donne un coup de roue dans le flanc de la Williams. Il se défendra après en disant « Mais Jacques n'aurait jamais tourné, il freinait beaucoup trop tard. » Ça rappelle peut-être Prost Senna à Suzuka, à la chicane. Quoi, hein. C'était un peu un dépassement à la hussarde, hein, c'est vrai. Mais bon, il se fait qu'il réussit. Et que c'est Michael qui se retrouve dans les graviers et que Villeneuve passe et que du coup, Villeneuve est champion du monde.
Comme Jacques s'excite derrière.
Est-ce que c'est pas la machine qui
voilà, c'est là où on peut doubler. C'est là où on peut doubler.
Et il passe. Et il se touche.
Quel con.
Et il s'accroche. Et
Villeneuve merde. Quel dommage.
Schumacher, je pense, à la roue avant passé, droite qui est ouverte.
Il était passé, Jacques Villeneuve.
Et
dommage.
C'est fini pour Schumacher.
Oh là là.
Villeneuve, cette voiture est intacte.
Et voilà, il a quand même tapé fort, Jacques Villeneuve. Il a tapé fort.
Et c'est resté quand même comme une défaite très amère pour Ferrari. Et pour Jean Todt, la manière forcément a été condamnée, hein, le fait que Schumacher volontairement pousse son adversaire hors de la piste ou en tout cas aille au contact avec l'intention de nuire. Bon, il a été lourdement pénalisé pour ça et il en a beaucoup souffert parce que c'est un réflexe, c'est un mauvais réflexe, mais c'est un réflexe de voyou parce que c'est un peu les comportements de cette génération de pilotes formés à l'école des coups de roue en karting.
Justement, est-ce que Michael Schumacher, quelque part, a redéfini ce qui était acceptable en Formule 1? On sait qu'Ayrton Senna, quelque part, avait déjà mis en pratique des choses qui n'étaient pas forcément regardées avant comme acceptables. Est-ce que ça a aussi participé, on va dire, en faisant venir les zigzags, en faisant venir des choses comme ça?
C'était déjà en lui. La preuve, Adélaïde 94. Effectivement, les zigzags où, au départ, quand il est en pôle, tout de suite se mettre devant son adversaire en profitant des quelques mètres d'avance de la pole position. Quand il prenait conscience que son départ n'était pas parfait, hein, tout de suite, il y avait la queue de poisson, quoi. Et le fait de zigzaguer dans les zones de freinage, ça a été réglementé par la suite parce que c'était une spécialité de Michael et c'était pas très sportif et ça n'était pas très bien accepté souvent par les autres pilotes. Donc l'éthique de pilotage de Michael, c'est sûr qu'elle était borderline, mais il a un peu imposé, voilà, ce que Senna avait déjà un peu montré, le mauvais exemple. On faisait le parallèle avec Suzuka 89, hein, le dépassement suicidaire, freiner au panneau trop tard et s'appuyer sur l'adversaire. C'est un peu cette nouvelle génération, hein, l'école du karting qui commence à s'imposer en F1 aussi.
À l'époque, Pierre Van Vliet, vous commentez les Grands Prix sur TF1. Comment est-ce qu'on réagit quand on a un tel dénouement?
Il va rester à droite. Il y va.
Et Jacques le laisse passer.
Et je vous l'avais dit.
Hakkinen va gagner.
Voilà.
Sa première victoire.
Voilà, formidable dénouement. La Formule 1 se porte bien, Pierre.
Et quelque part, on se demande si Villeneuve n'a pas eu le fair play. Et Coulthard,
regardez.
Attaque, attention, Coulthard attaque, il va être
deuxième. Mais oui.
Et
bravo.
Jacques Villeneuve,
bravo.
Inclin, chapeau.
Très
chapeau
belle course.
À Jacques Villeneuve. Victoire d'Hakkinen devant Coulthard. Doublé des McLaren Mercedes dans le dernier tour de ce Grand Prix d'Europe. Dans le dernier tour de cette saison 1997 absolument extraordinaire. Et Jacques Villeneuve est champion du monde de Formule 1. Williams Renault en termine en beauté pour le constructeur français.
On est debout sur les tables, hein, parce que c'est extraordinaire à commenter. C'est une course, voilà, quand je vous parle de scénario à Hitchcock, c'était vraiment un suspense extraordinaire. Et je me souviens très bien de ces cabines à Jerez qui n'étaient pas climatisées alors qu'on avait un soleil de fin de journée qui tapait dur sur la vitre, hein, la cabine vitrée. Jacques Lafitte avec moi était tellement excité qu'il avait enlevé sa chemise, il dégoulinait, il était à poil dans la cabine, c'était assez drôle. Et Jacques a cette fameuse phrase, hein, cette fameuse réflexion, oh le con, au moment où Michael donne le coup de roue à Jacques Villeneuve. La spontanéité de Jacques Lafitte et du pilote qui sait que voilà, c'est volontaire et qu'il n'aurait pas dû le faire et qu'il va le payer cher. Mais voilà, il y avait une ambiance électrique, quoi, dans les cabines commentateurs, pas seulement la nôtre évidemment. C'est une époque aussi l'âge d'or de la F1 à la télé, parce que, pour vous donner une idée, ce Grand Prix-là, un Grand Prix à 14h comme un Grand Prix européen normal, on fait 7,5 millions de téléspectateurs. C'est un record d'audience pour TF1. Un dimanche après-midi, jamais ils ont vu ça. Alors, on a parfois fait un peu plus dans des Grands Prix en prime time, mais jamais sur toute la durée de la course, quoi. Là, ça a été le record absolu des audiences de la Formule 1 sur TF1, et il n'est pas prêt d'être battu.
Michael Schumacher, La Saga, un podcast de Pierre Van Vliet et Andy David, prise de son montage Clément Ritter, voix off Marie Lisac.